tant qu'écrivain, j'ai beaucoup travaillé autour du désir, le désir de vivre, c'est-à-dire l'envie de se lever le matin. C'est une chose dont je ne me suis jamais remise, dans le sens positif du terme, le fait que tous les matins, quoi qu'il arrive, presque, j'ai envie de me lever, j'ai envie de vivre la journée qui commence. Et parfois, je ne fais pas de conférence chez les bosons. Parfois, j'ai des journées beaucoup plus banales. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. J'ai envie de me lever et de vivre cette journée. Et j'ai toujours eu le sentiment que c'était une sorte de grâce qui m'était donnée. D'abord parce que, évidemment, j'ai aussi connu les moments où je n'avais pas envie de me lever le matin. C'est-à-dire que je sais à quoi ça peut ressembler à peu près, la dépression, la mélancolie, ces états où tout à coup on se demande pourquoi vivre la journée qui vient. Et en plus, on a l'impression d'être hyper lucide à ces moments-là, c'est ça qui est fascinant. On a l'impression que plus on est déprimé, plus on est lucide. Vous savez, ça va avec la dépression. Bref, en tout cas, voilà, j'ai toujours eu le sentiment que se lever, c'était avoir envie de se lever, c'était une sorte de grâce qui m'était et qui nous était accordée. Et donc c'est ça pourquoi on se lève. On se lève parce qu'on a envie de vivre, parce qu'on a le désir de vivre, quelle que soit la journée qu'on va vivre. Et c'est ce désir-là, le désir de vivre, l'énergie vitale, que j'interroge depuis très longtemps dans mes livres, dans mes romans, dans mes essais. Et donc, j'ai écrit plusieurs textes autour de cette thématique qui me tient à cœur, et il est probable que j'en écrirai d'autres. Enfin, je veux dire que ça traverse constamment, ça nourrit ma pensée du monde et ma pensée des êtres humains. Donc, voilà où j'en étais en 2015, avoir écrit plusieurs livres où le désir était soit le sujet, soit traverser les livres d'une façon ou d'une autre. Et puis je me suis aperçue des limites ou des inconvénients du désir. Je ne sais pas comment vous vivez, mais je le soupçonne, sans doute comme moi, c'est-à-dire que je passe mon temps projeté vers l'avant, dans l'avenir, en train de faire des choses, mais en train d'anticiper ce que je vais faire, en train de monter des projets infinis, de fabriquer des choses, bref. J'ai l'impression de vivre en apnée permanente et... C'est mon désir de vivre qui fait que je me propulse constamment dans le faire et vers l'avant. Et ce n'est pas toujours bien de vivre seulement comme ça. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui échappe à ceux qui vont trop vite, c'est l'émerveillement. Or, je crois aussi que la capacité de s'émerveiller, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une dimension fondamentale de notre façon d'être au monde et qu'on doit la cultiver. Pour tout vous dire, depuis le début, j'ai l'impression d'écrire des livres, j'hésite, j'appelle ça des traités de savoir-vivre. C'est-à-dire, depuis le début, je me demande comment, c'est pour ça que j'écris, comment vivre bien une vie bonne sur la Terre. Je vais la traverser, cette vie, comment la vivre et quels sont les moyens, les manières de la vivre qui sont bonnes, qui seront bonnes pour moi et même pour les autres. Et donc, l'émerveillement, c'est un thème qui grondait en moi depuis longtemps. Et un beau jour, je me suis décidée à écrire ce livre. Je dois préciser tout de suite que l'émerveillement dont je vais vous parler, et sur lequel j'ai écrit un livre qui s'appelle « S'émerveiller », et cet émerveillement dont je veux vous parler, c'est une des formes de l'émerveillement. Il y en a plusieurs, j'y reviendrai. L'émerveillement qui m'intéresse, c'est ce que j'appellerais, faute de mieux, l'émerveillement devant le monde modeste. C'est-à-dire l'émerveillement qui peut nous saisir n'importe où, n'importe quand, au spectacle d'un événement, appelons-le comme ça, d'un événement du monde modeste. Je pense qu'ici, au printemps, c'est ce qu'Élise suggérait, l'après-midi, quand la lumière est très belle, il est possible, je ne sais pas trop comment elle tombe de là-haut, mais il est possible que tout à coup, il y ait une lumière dans la pièce, particulièrement belle, particulièrement évocatrice, poétique, et qu'on soit fugitivement émerveillé par cette façon qu'a la lumière de tomber dans la pièce. Je le précise parce que aller s'émerveiller devant le Mont-Saint-Michel, devant le Guggenheim ou devant je ne sais quelle île enchantée du Pacifique, c'est pas difficile, il suffit d'avoir de l'argent. Donc on paye, on y va, on regarde, on observe un objet émerveillant en lui-même et on s'émerveille. Celui-là, il ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, il m'intéresse. J'essaye de temps en temps d'aller voir des choses merveilleuses. Mais sur celui-là, d'émerveillement, j'aurais sans doute pas pris la peine d'écrire un livre. Alors que celui dont je vous parle, l'émerveillement devant les objets du monde modeste, l'émerveillement qui peut nous arriver à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance quasiment, celui-là m'intéresse et je m'apprête à vous dire pourquoi aujourd'hui. Je vous lis un tout petit extrait pour vous montrer de quoi. Je vais de temps en temps vous lire quelques extraits. Parfois, je dis mieux, j'écris mieux que je ne parle. C'est ce que pensent les écrivains souvent. Et donc, parfois, je n'ai pas envie de faire de la paraphrase et je préfère vous lire un petit bout et, pour que vous voyez. Donc, c'est la première page de mon livre qui, dans un chapitre qui s'appelle « Le pur présent ». Et voilà ce que j'écrivais brièvement. L'autre fois, l'automne, je notais. Ce matin, je contemple mon chêne, cette torche de temps pur qui se dresse à 200 ou 300 mètres devant la fenêtre du bureau, dans ma maison des champs. La vision est d'autant plus nette que l'herbe à son pied est rase, ultime fenaison faite, et le soleil dissipe lentement la couverture de nuages légers. À mon lever, la brume de chaleur, un si doux septembre, le dissimulait tout à fait. Tandis que l'arbre émergeait, le détail de sa ramure devenant de plus en plus net, la haie d'arbres du fond perdant son indistinction ombreuse, j'observais, de l'autre côté du carreau, deux merles cherchant leur nourriture. Et je me suis sentie émerveillée par la beauté du chêne, du champ, des oiseaux noirs, par le silence ouaté et la solitude. Je dois vous dire que ce chêne, donc ça c'est j'ai une maison en Normandie où je vais souvent travailler et jardiner. Enfin avant je jardinais quand j'en avais le temps. Et ce chêne donc qui est en face de ma maison, c'est vraiment le chêne, il y en a des millions comme ça en France. Je vous garantis, il a rien, il est vieux sans doute, il est assez grand, il est bien découpé, mais c'est un chêne comme il y en a des milliers en France. Et sa seule particularité, sans doute, c'est qu'il est isolé dans un champ, ce qui fait que quand je suis assise à mon bureau, je le vois seul émerger de ce champ et il provoque régulièrement mon émerveillement. Donc, vous l'avez compris, le sentiment dont je voudrais parler ici, l'émotion dont je voudrais parler ici, est une des versions de l'émerveillement, pas tous, il y a d'autres formes d'émerveillement, mais le mien, donc, c'est un émerveillement qui fait que des objets du monde simple, du monde ordinaire, du monde que nous croisons tous les jours, peuvent devenir pour nous sujet, enfin la raison, le motif de cette émotion dont je vous parle. C'est un peu ce qui se passe avec les êtres humains. J'en parlerai un peu plus loin dans un des chapitres de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Parfois, nous sommes amoureux, par exemple, et nous tombons amoureux de quelqu'un qui n'est pas forcément un Apollon, mais on pourrait traduire, qui n'est pas forcément un Apollon, qui n'est pas forcément Einstein, qui n'est pas forcément je ne sais pas quoi. D'ailleurs, on est peut-être même la seule à être amoureuse de lui, les autres ne trouvent pas du tout terrible. Mais pour nous, cet être-là est absolument émerveillant, et de cet être-là, nous sommes amoureux, comme moi avec mon chêne. Donc, l'expérience que je raconte avec mon chêne, elle peut être figurée aussi dans les rapports que nous avons dans l'amour avec les êtres que nous rencontrons. Ils ne sont pas forcément des êtres sublimes, mais si, pour nous, ils le deviennent et ils nous émerveillent. Hein, le sentiment amoureux, j'y reviendrai, c'est un émerveillement. Alors, de quoi je le distingue, cet émerveillement modeste, si vous me permettez le raccourci, je le distingue notamment du sublime. Vous savez, le sublime, c'est un sentiment devant un objet qui est tellement grand qu'il en est presque effrayant. La montagne, jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple, était sublime, c'est-à-dire qu'elle était à la fois extraordinairement belle, mais pour ceux qui l'observaient jusqu'à cette époque, elle était aussi effrayante, elle était effroyable. D'ailleurs, on n'y allait pas. On s'est mis à traverser les montagnes, à marcher dans les montagnes à la fin du XVIIIe siècle. Avant, c'était un endroit horrifique. Mais, et la montagne a gardé cette double dimension d'être à la fois extraordinaire, merveilleuse et effrayante. Dans la catégorie du sublime, il y a des constructions qui sont sublimes. Tout à l'heure, je parlais du Mont Saint-Michel. Si vous êtes déjà trouvé devant le Mont Saint-Michel, c'est terrassant de beauté. C'est une construction humaine et elle est sublime, vraiment. C'est-à-dire, c'est tellement étrange, c'est tellement surprenant, c'est tellement grand en même temps que, je dirais, n'importe qui peut être émerveillé par le Mont Saint-Michel. Et vous-même, si vous y allez, vous n'avez pas besoin d'être dans un état d'esprit, une disposition particulière pour vous émerveiller devant le Mont Saint-Michel. C'est la merveille. Et donc, c'est ce dont je ne vais pas parler, le sublime et la merveille. Parce qu'évidemment, il y a des choses, des objets dont on pourrait dire c'est une merveille. Et donc, forcément, quand on est devant, on s'émerveille. Hein, on s'émerveille devant la merveille. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette lumière qui tombe de la verrière. C'est pas une merveille, c'est autre chose. Alors, ce dont je veux vous parler, c'est de la disposition d'esprit dans laquelle il faut se trouver, qu'on peut cultiver, qu'on peut travailler pour être sensible à ce sentiment d'émerveillement qui peut nous arriver un peu à n'importe quel moment et presque dans n'importe quelle circonstance dans les journées qu'on traverse. Je précise aussi, en approchant de mon sujet, que je n'ai rien du ravi de la crèche. Vous pouvez en douter, mais je vous assure, j'ai rien du ravi de la crèche. Et je dirais, si vous regardez mes romans, par exemple, ça me plairait beaucoup. Si vous regardez mes romans, tous mes romans ont des sujets assez graves. Dans le premier, j'évoque le suicide de Stefan Zweig en 1942 au Brésil. Dans le deuxième, j'ai écrit un roman autour de cette affaire d'erreur judiciaire dont on parle souvent, sur lequel on est souvent revenu, qui date du début du siècle, dans lequel on avait accusé à tort quelqu'un et ses petits-enfants se battent pour essayer de le réhabiliter. Je fais bref, mais j'ai fait une fiction de ça. Mais vous voyez que je ne traite pas forcément des sujets très ravi de la crèche. C'est même, je dirais, que ce qui m'a mis la main à la plume, au fond, c'est pas du tout la joie, c'est la violence du monde. C'est que je n'ai jamais pu me faire une raison de la violence du monde, je peux toujours pas, et c'est pour ça que j'écris. Le premier mouvement d'écrire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la violence du monde. Mais en même temps que j'écrivais ça, en même temps que je m'interrogeais depuis toujours sur la violence du monde, je sentais en moi le désir de vivre, le désir de me lever. Et donc cette violence du monde qui m'était si difficile à supporter au point que je devais la penser, la réfléchir, aller dans les deux sens du terme, hein, la réfléchir, la penser, et puis en renvoyer une image, cette violence du monde s'accompagnait dans ma propre existence du désir de vivre. Et donc, il y avait quelque chose qui était presque paradoxal, ou en tout cas, peut-être on pourrait dire aussi équilibré, entre ce qui me faisait tant de mal et tant de difficultés à penser, et au contraire, ce qui me réjouissait. Donc, vous l'avez compris, je ne pense pas que le monde soit le paradis sur Terre, soit un endroit délicieux où tous les êtres humains sont merveilleux, etc. Pas du tout. Je pense confusément, je veux croire que le monde est en équilibre entre beaucoup de violence et beaucoup de beauté, et j'essaye de faire mon chemin, disons, dans cette image double à travers laquelle le monde m'apparaît. Donc évidemment, vous l'avez compris aussi, l'émerveillement, c'est quand je travaille sur ce que je trouve beau et intéressant dans le monde qui m'est offert. Alors cet émerveillement, comment on y arrive? Comment on accède à cet état qui nous rend disponible à l'émerveillement? Ça a fait partie du sujet de mon livre. J'ai essayé de comprendre ce que c'était et comment on y arrivait. Alors voilà, c'est un peu là autour de ça que je vais essayer de vous parler maintenant. Je crois que l'émerveillement, le fait de l'émerveillement, mon chêne qui apparaît dans la brume, la lumière qui apparaît dans cette verrière, l'émerveillement, c'est toujours un événement, apparaît comme un événement. Tout à coup, quelque chose surgit, quelque chose a lieu, une sorte d'épiphanie, ça n'était pas là, ça ne sera plus là tout à l'heure, et je vais peut-être être capable de saisir cet événement, de saisir cette épiphanie qui se propose devant moi. Pour cela, la première chose, j'y reviendrai souvent, la première chose, c'est de réussir à habiter ici et maintenant. Ce n'est pas facile pour nous, parce que notre désir nous pousse tout le temps vers demain. Nous sommes tout le temps dans l'anticipation, en train de se demander ce qu'on va faire, comment on va le faire, etc. Et pour arriver à s'émerveiller de cet émerveillement modeste dont je vous parle, la première condition, c'est d'être ici et maintenant, et nulle part ailleurs, d'habiter entièrement l'instant. Ça, c'est difficile. Pour moi, c'est très difficile. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que l'émerveillement, c'est un programme d'avenir pour moi. Ce n'est pas encore tout à fait... Je ne peux pas vous dire que tous les jours, je m'émerveille. J'essaye. Mais c'est ce vers quoi je tends. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'être absolument, entièrement présent, ici et maintenant, c'est une chose difficile. C'est un état qui est difficile à atteindre. Donc, première condition, ici et maintenant, qui demande de changer, de penser autrement notre rapport au temps. Donc, contre l'anticipation, le maintenant. Je vous ferai remarquer que la plupart des joies que nous avons, et j'y reviendrai souvent, parce que la joie est un programme de vie raisonnable, la plupart des moments où nous sommes dans la joie, vraiment, nous sommes ici et maintenant. Lorsque nous sommes dans la relation amoureuse, nous sommes ici et maintenant. Nous sommes dans l'immédiateté de la relation ou de l'étreinte charnelle, et c'est ça qui nous permet d'être dans cette joie. Lorsque nous dansons, moi j'aime beaucoup danser, lorsque nous dansons, la joie qui surgit, c'est ici et maintenant. Imaginez si vous dansez, vous pensez à je ne sais pas quoi, à la prochain tour de piste que vous allez faire, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est ici et maintenant. Quand on rit, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire tous les moments de la joie, c'est ici et maintenant. Et ça me paraît une dimension très importante de la vie et qui peut nous permettre d'arriver donc à cet émerveillement, à sentir... à ne pas rater, disons, les occasions de cet émerveillement. Le problème, c'est que la plupart du temps, on est habité par des tracas, des soucis, des projets, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas la disponibilité d'esprit pour cela. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui vous le reprocherai. Moi aussi, je suis préoccupée de mille choses et parfois, je passe à côté de... Il y a beaucoup d'événements très importants de nos vies, la joie comme la grande douleur, qui doivent être traversées et vécues. Et pour cela, il faut arrêter le temps. Et ces temps-ci, donc, en pensant à ça, en pensant comme j'attendais cet enterrement, je l'attendais pour le vivre vraiment jusqu'au bout, le sentir. Et l'émerveillement, c'est pareil, si je puis dire, sur l'autre côté du spectre. Il faut arrêter le temps pour traverser réellement ce qui peut nous advenir, et dans ce cas, qui nous advient de bien. Voilà, donc, la plupart du temps, on devine bien qu'être dans ce monde, être de ce monde, c'est merveilleux. On est vivant, vous vous rendez compte? On est vivant, on traverse ce monde. Sauf que la plupart du temps, on le traverse sans le connaître. C'est-à-dire sans connaître le fait qu'il pourrait y avoir aussi, de la joie dans cette traversée. Et je pense qu'il est sage je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il est sage de rechercher la joie. Je pense que c'est même une des choses les plus sages que nous puissions faire. C'est d'essayer d'avancer, parce qu'on n'y arrive jamais vraiment, mais d'avancer vers le bonheur. C'est un projet philosophique qui est important et qui est valable, si je puis dire. « Je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé à le dire, ça n'est pas l'objet que nous regardons qui rend les choses merveilleuses, enfin qui se donne comme un objet merveilleux, c'est une disposition de l'œil, c'est une disposition de notre esprit. Je pense qu'il faut être voyant, pour parler comme Rimbaud, il faut être voyant pour saisir ces disponibilités, propositions du monde qui pourraient nous échapper, parce qu'elles sont trop modestes, précisément. Et se faire voyant, ça demande un certain tour d'esprit, ça demande une certaine disposition d'esprit, ça demande plusieurs choses, et d'abord, ça demande une concentration, je dirais. Si on n'est pas concentré en soi-même, si on n'est pas rassemblé en soi-même, on ne peut pas faire ce mouvement vers l'extérieur qui est la condition pour saisir l'émerveillement qui passe. Alors là, je vais dire des choses paradoxales parce que je pense qu'il faut être à la fois, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je pense qu'il faut être à la fois rassemblé en soi-même, c'est pourquoi la solitude est particulièrement propice à l'émerveillement. Parce que dans la solitude, quand on n'est plus sous le regard d'autrui, sous le regard du monde, quand on n'est plus dans les interactions avec autrui, on est beaucoup plus rassemblé en soi-même. Et le fait d'être rassemblé en soi-même, c'est ce qui permet, paradoxalement, d'avoir le regard jaillissant, le regard qui va se porter vers l'extérieur, qui va se faire voyant et qui va apercevoir un chêne, une lumière, un oiseau, une musique. Donc, la première chose, c'est cela, c'est cette concentration, le fait d'être rassemblé en soi-même. L'objet que nous regardons, vous l'avez compris, n'est pas merveilleux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'émerveillement se passe dans un mi-chemin. Ça se passe, pour que l'émerveillement ait lieu, il faut évidemment qu'il y ait un objet du monde susceptible de l'éveiller en nous, mais il faut aussi que nous soyons disposés à cette rencontre. Alors je suis obligée de faire un geste, vous voyez, c'est ça l'inconvénient quand on n'écrit pas et qu'on parle, on est obligé d'avoir recours. L'émerveillement, ça se passe entre soi et le monde, là-haut, dans un point de rencontre entre soi-même et le monde. L'émerveillement, c'est un entre-deux, entre soi et le monde. Et c'est dans cette rencontre entre soi et le monde que peut avoir lieu, que peut survenir le sentiment d'émerveillement. Deuxième ou troisième point que je voudrais souligner à propos du temps. Non seulement l'émerveillement demande d'habiter dans l'ici et maintenant, mais il demande aussi une certaine lenteur. Ça paraît assez logique après ce que je vous disais. Le problème, c'est que nous allons trop vite, tout le temps trop vite. Et même les mots sont trop rapides. On dit les choses, on les dit vite, avec des mots qui synthétisent des perceptions, des savoirs, des choses. Et finalement, dans cette vitesse avec laquelle nous saisissons le monde, nous risquons de ne pas rencontrer l'émerveillement. Donc la lenteur fait partie de cet état intérieur dans lequel il faut être, dans lequel il faut se trouver pour ressentir cet émerveillement. Vous savez, Proust parle de ça dans le côté de Guermande. À un moment donné, il évoque, à propos des noms, il évoque la toupie. Si vous faites tourner la toupie très vite, la toupie aura l'air grise. Tandis que si elle commence à ralentir, alors on va s'apercevoir qu'en fait, il y a tout le spectre lumineux. Faut-il qu'il y ait au départ, mais si une toupie est constituée et décorée avec le spectre lumineux, si on la fait tourner très vite, elle devient grise. Et le monde, c'est comme ça. Si on va trop vite, il est gris. Si on ralentit, alors on commence à percevoir le détail des couleurs dont il est constitué. C'est cela, la lenteur, dont je vous parle. On pourrait aussi évoquer à propos du temps cette notion grecque très intéressante que j'aime beaucoup, du kairos. Vous savez, chez les Grecs, c'est une notion qui n'a pas de traduction, qu'on utilise telle qu'elle, on l'a empruntée chez les Grecs, elle n'a pas beaucoup d'usage, bizarrement, alors qu'elle est tellement intéressante. Le kairos ou le kairos chez les Grecs, donc K-A-I-R-O-S, c'est une disposition dans laquelle on se trouve qui nous permet d'attraper, de saisir le bon moment, de saisir une opportunité. Pour vous dire, par exemple, parfois il représentait le kairos par un jeune éphèbe qui passe avec une touffe de cheveux sur la tête. Le jeune éphèbe passe en courant et là, il y a plusieurs possibilités. Soit on le regarde passer et on le laisse passer, soit on attrape sa touffe de cheveux et on l'arrête. Et le kairos, c'est d'être capable d'attraper la touffe de cheveux. C'est soudain d'attraper cette chose qui passe devant nous à toute vitesse. Et alors moi, c'est une notion que j'aime beaucoup parce que vous voyez ce que ça nous indique comme disposition intérieure. Être capable de saisir le kairos, ça veut dire une vigilance extrême, ça veut dire une disponibilité, ça veut dire savoir qu'il y a des possibilités devant nous, des choses à attraper. Les Grecs s'en servent pas du tout pour l'émerveillement, hein. Ils en parlent pour la pensée, par exemple. Saisir dans une situation donnée, vous savez très bien, dans le boulot, ça arrive tout le temps. Il y a un moment donné, les choses sont configurées de telle façon que si on est très vigilant, on saisit une opportunité qui aurait pu tout à fait nous échapper dans la discussion, dans toutes sortes de circonstances. Il y a des opportunités et il faut être assez vigilant pour pouvoir les attraper. Donc, cette notion qui marche pour la vie intellectuelle, pour la conversation, etc., elle marche aussi pour l'émerveillement. Si on le tire du côté que moi, dont je veux le tirer, c'est-à-dire que pas besoin d'être un éphèbe pour mériter de me retenir, il suffit d'être un petit événement insignifiant, encore une fois, une lumière qui passe sur un mur, mais si je suis capable d'attraper ce kairos, alors je serai capable de m'émerveiller de cette petite chose. Les éphèbes, vous savez, ça ne nous intéresse pas tellement, en fait. Une autre notion très importante pour l'émerveillement, c'est l'enfance. Évidemment, on vous dira souvent, et à juste titre, que l'émerveillement, c'est une possibilité de l'enfance. Je dirais même, les enfants ne font que ça. Ils font que s'émerveiller. Ils passent leur temps à s'émerveiller. Et évidemment, ils arrivent au monde. Vous vous rendez compte, pour eux, tout est découverte. Donc, tout est formidablement intéressant. Et vous les voyez, comme ils courent partout, comme ils regardent, comme ils jouent, comme ils touchent. Mais oui, le monde est neuf. Et donc, ce sont des émerveillés, je dirais, naturellement des émerveillés. Et Baudelaire, d'ailleurs, pensait que les artistes devaient, pour créer, retrouver cela. Voir, ce qu'il dit, voir le monde en nouveauté. C'est-à-dire, il dit que l'homme, le créateur, quelle que soit sa création, on pourrait nous étendre cette notion, le créateur, c'est celui qui est capable de se mettre dans une situation d'enfance, dans un état d'esprit d'enfance, dans la naïveté, dit-il même, de l'enfance, et de voir le monde en nouveauté. La naïveté dont parle Baudelaire, c'est pas du tout la naïveté, la sottise ou l'espèce d'innocence stupide, non, c'est la naïveté au sens où le regard est neuf, justement, ce qui est très différent. Et évidemment, pour parler d'émerveillement, eh bien, il faut réussir à faire appel à l'enfance en nous, à retrouver cette situation où le monde ne nous est pas familier. Et là, je crois qu'on touche à une notion vraiment très importante, c'est ce que j'appellerais la défamiliarisation. Encore une fois, parce que nous allons vite, et nous allons vite parce que nous avons besoin d'aller vite. Il y a des tas de choses qu'on doit faire, il faut que ça se passe vite. Nous habitons dans un monde familier, et si jamais ce n'est pas familier, de toute façon, on ne le voit pas, on est passé trop vite. C'est pour ça qu'on voyage, d'ailleurs. Vous savez, les voyageurs, ce sont des gens qui savent qu'on peut acheter l'émerveillement très facilement. Ils vont dans un pays étranger, et donc forcément, dans un pays étranger, ils sont, un, eux-mêmes en état d'hypervigilance, quand on ne connaît rien, quand on découvre tout, quand tout est nouveau, on est dans un état d'hypervigilance. Et d'autre part, de fait, le monde est rempli d'objets, de lieux, de gens qui tous nous étonnent. Et du coup, on s'émerveille. Forcément, on s'émerveille. Le voyageur s'émerveille, mais il n'a pas de mérite. Je le dis comme voyageuse moi-même. Moi aussi, je voyage. Mais je sais bien que ce n'est pas très difficile de s'émerveiller en voyage. Forcément, tout est neuf. Tout est neuf et on est hyper vigilant. Donc, le voyage, c'est la façon de fabriquer de la défamiliarisation. Plus difficile d'arriver à de la défamiliarisation quand on se trouve dans le monde dans lequel on a l'habitude de vivre. Quand on passe 18 fois par mois dans la même rue, ça va être difficile de s'apercevoir qu'il y a peut-être une petite fleur là qui a poussé dans l'interstice du mur et du trottoir, et tout à coup, elle peut nous enchanter, cette petite fleur. Faut-il la voir? Et donc, il faut ne pas avoir les yeux fermés par la familiarité qui est la nôtre dans ces espaces qu'on connaît trop. Donc, vous voyez, défamiliariser le monde, voir le monde en nouveauté, en appeler à l'enfance en nous en tant qu'elle est capable de s'émerveiller de tout, elle est capable de découvrir le neuf partout, ça fait vraiment partie de cette disposition, disons, qui permet l'émerveillement. Juste une parenthèse, mais pour les écrivains, c'est très important cette idée de défamiliariser, parce que le langage que nous utilisons est un langage qui nous incite à, enfin, qui nous donne le monde, un monde familier. Il est fait pour ça, presque, le langage. On met des mots et on sait que ce mot renvoie à telle chose. Il n'y a aucune surprise pour nous, heureusement. Ça nous permet de réfléchir vite. La langue, c'est ce qui nous permet de réfléchir très vite, de parler, de construire, de communiquer, de faire plein de choses. Mais un écrivain, c'est quelqu'un qui précisément va entendre, écouter la langue et faire parler la langue à neuf. Il va essayer de la défamiliariser. D'où, par exemple, les recherches stylistiques, enfin les recherches de langue nouvelle. Tous les écrivains ont envie d'inventer une langue nouvelle d'une manière ou d'une autre, parce que justement, ils essayent de défamiliariser le langage pour qu'il nous suggère autre chose que ce que nous avons l'habitude de voir. Et ce travail-là, c'est très important. Et en réalité, on peut dire que tous les créateurs, là aussi, tentent de défamiliariser leurs outils pour que, derrière l'habitude, on voit le monde à neuf et qu'on y voit des choses nouvelles, du coup. Je suis sûre qu'à ce point de mon discours, vous mourrez d'envie de connaître l'étymologie du mot émerveillement. Je vais vous la donner. Étymologiquement, il y a un mot grec qui désigne quelque chose qui a à voir avec l'émerveillement. C'est le mot thomasein, T-H-A-U-M-A-Z-E-I-N, thomasein. Chez les Grecs, thomasein, c'est un mot qui représente à la fois l'étonnement et l'émerveillement. Et donc, ce n'est pas tout à fait l'émerveillement dont je vous parle. C'est un mot très intéressant parce que d'abord, Aristote dit qu'il est à la racine de la philosophie. C'est parce qu'on s'étonne que les choses soient comme elles sont, qu'elles soient et qu'elles soient comme elles sont, que commence le travail intellectuel, que commence le travail philosophique. On se met devant le monde, on le regarde et on s'en étonne. Donc cet étonnement, il est vraiment fondateur de la pensée. Hein. Nous sommes humains parce que nous pensons le monde, et nous nous étonnons devant le monde, c'est pour ça que nous prenons la peine de le penser. Mon chat ne s'étonne pas devant le monde, et donc il n'a pas besoin de construire quoi que ce soit, système d'interprétation, etc., ou système de représentation. Il n'en a pas besoin parce qu'il ne s'étonne pas du monde, il est dedans. Il est au cœur, au sein du monde. Nous avons besoin. Donc, cet émerveillement, chez les Grecs, émerveillement, étonnement, chez nous, il s'est un peu séparé, et on a deux termes qui sont relativement différents maintenant, l'étonnement, donc, pouvons nous étonner d'un certain nombre de choses. Et puis l'émerveillement, qui est une version plus, qui a plus à voir avec la joie, précisément avec le sentiment de joie, alors que l'étonnement a plus à voir avec le savoir, la connaissance. Hein, l'étonnement, c'est ce qui produit de la connaissance, pour nous voulons comprendre et savoir. Tandis que l'émerveillement est plus du côté de l'art. C'est-à-dire, c'est parce que nous sommes émerveillés que nous faisons un tableau, un livre et des objets esthétiques. J'ai observé, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai observé que dans mon cas, l'émerveillement est souvent lié à la nature, au spectacle de la nature ou à des objets naturels. Et ça finit par m'étonner, parce que j'aime aussi les villes, je vis dans les villes. Pourquoi cette primauté, cette primeur de la nature dans l'émerveillement? Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais souvent, quand même, ça arrive. Et j'ai fini par penser que la nature, c'était précisément ce qui est l'altérité absolue. Quand je traverse la ville, j'ai l'impression de voir ce que les humains ont construit. Donc je peux me dire « Ah, c'est chouette, c'est beau hein ». Mais on reste dans l'humain. Quand je suis devant mon chêne, qui est bien plus simple que n'importe quel édifice d'une ville pourtant, mais mon chêne, c'est ce que j'appelle non-moi. C'est absolument non-moi. C'est de l'altérité pure. Quand je vois un animal qui passe, quand je vois un merle, qui est vraiment un oiseau familier, il y en a plein les villes, heureusement, parce qu'il chante vraiment très bien, le merle, c'est non-moi absolu. Je suis placée en face d'un monde qui n'est pas moi, qui n'est pas fabriqué par moi, moi en tant qu'humain, je veux dire. Et dans cette altérité radicale, il y a la possibilité de l'émerveillement, justement. Donc une notion qui me paraît aussi très importante pour l'émerveillement, c'est l'altérité. Je crois que c'est ce qui arrive aussi, d'ailleurs, dans le sentiment amoureux, à nouveau. C'est parce que l'autre est autre qu'il nous émerveille. Et d'ailleurs, notez bien, c'est le sujet d'un autre livre, mais notez bien que ce qui tue l'amour, ce qui ruine l'amour, c'est la familiarité. C'est quand on connaît tellement l'autre qu'on finit par ne plus pouvoir s'émerveiller. Parce qu'il est tellement prévisible, parce qu'il fait exactement ce qu'on s'attendait à ce qu'il fasse, parce qu'on ne le voit plus physiquement tellement on l'a vu, etc., etc. La familiarité, c'est le pire ennemi de l'amour, et du couple en tout cas. Et la particularité de la familiarité, c'est justement d'interdire l'émerveillement. Encore une fois, pour s'émerveiller, il faut voir les choses en neuf, et il faut voir le nouveau des choses. Et c'est une condition donc sine qua non de l'amour et de l'émerveillement. Donc vous voyez que ce que je veux vous dire, c'est que l'altérité, que ce soit l'altérité du monde, du cosmos, des étoiles, pourquoi on aime tellement regarder le ciel et le cosmos? C'est parce que c'est tellement non moi, c'est tellement autre chose que moi, que ça peut m'émerveiller. Et l'autre aussi, je l'aime à condition. Il m'émerveille à condition qu'il garde cette altérité qu'hélas, le temps a tendance à gommer. Donc cette primeur que j'accorde souvent à la nature, je crois que c'est précisément, dans l'émerveillement en tout cas, je crois que c'est précisément lié au fait que la nature c'est non moi. Et là, j'aime bien me contredire, vous allez voir, nuancer ce que je prétends. Donc, en même temps, je crois que si nous sommes capables de nous émerveiller, c'est parce que, et là je vais dire des choses absolument pas scientifiques, pardonnez-moi, mais c'est parce que nous sommes accordés au monde. Bizarrement, nous sommes faits de la même étoffe, nous sommes faits au même creuset. Et il y a entre le monde et moi, il y a une connivence profonde qui fait que je peux m'émerveiller. Songez que c'est assez bizarre qu'on aime tellement les couchers de soleil. Prenons le coucher de soleil, ça c'est un sujet d'émerveillement très quotidien, un beau coucher de soleil, pour peu qu'il ait fait beau, que la lumière soit favorable, etc. Tout le monde peut s'émerveiller d'un coucher de soleil. C'est quand même étrange, non? Pourquoi on s'émerveille d'un coucher de soleil? C'est d'une banalité en même temps, un coucher de soleil. Alors vous allez me dire, celui-là, on avait l'impression de ne l'avoir jamais vu. C'est ça la particularité d'ailleurs de l'émerveillement toujours, c'est qu'on a l'impression que c'est la première fois qu'on voit ça. Mais on sait très bien que ce n'est pas vrai. Bref. Mais pourquoi est-ce qu'on peut s'émerveiller d'un coucher de soleil? Pourquoi est-ce qu'on peut s'émerveiller d'un arbre? Je ne sais pas si vous me suivrez, mais moi je suis émerveillée pour le coup par le fait que nous soyons si bien accordés au monde qu'il nous convienne tellement. Et donc, plutôt que de parler, je vous lis un petit extrait à nouveau. Je me suis souvent étonnée d'éprouver si vivement le sentiment sensation, avec un trait d'union, le sentiment sensation que l'univers nous était parfaitement appareillé. L'émerveillement, manifestant ce lien étrange, nous pose devant le monde comme devant l'altérité, mais non pas comme devant l'étranger. Autre, mais non étranger. Nous le reconnaissons au creux de nous-mêmes. Il correspond avec je ne sais quoi de notre intimité. J'ai déjà évoqué notre fastueuse connivence avec ce qui existe. N'est-ce pas ce qui explique la possibilité de s'émerveiller ? Que nous soyons à la fois intimement reliés au monde, voués au monde, écrivait Merleau-Ponty, et à distance, l'écart ouvrant à l'étonnement et au dire. Nous sommes formés au même creuset, cette montagne et moi, cet homme et moi, et si l'une comme l'autre m'apparaissent dans leur radicale altérité, je sens aussi combien nous sommes faits l'un pour l'autre, si je sais sentir. L'expérience d'être au monde, à l'inverse d'une certaine posture romantique, croire à cette connivence et s'y rendre disponible. Je ne sais d'où vient ce sentiment que l'univers et les hommes sont faits de la même étoffe. Mais si l'être se déploie, alors ses désirs, parce qu'ils sont pareillement tissés, parce qu'ils appartiennent à ce monde dont ils sont non pas les fruits mais la substance même, peuvent s'y trouver accomplis. Donc vous voyez que j'essaie de dire quelque chose qui relève de la croyance et qui relève de l'intuition du monde, mais je crois qu'il est important de dire que nous sommes devant le monde comme devant l'altérité, mais l'altérité, ça ne veut pas dire l'étrangeté. Là encore, je vous renvoie à votre expérience de l'amour. L'autre de l'amour n'est pas un étranger. Il est autre, mais il n'est pas étranger. S'il était étranger, on ne serait pas dans la relation d'amour. Et c'est vrai que j'ai tendance à prendre souvent comme image de l'émerveillement la relation amoureuse parce qu'elle permet de vraiment, parce qu'on en a fait tous à peu près l'expérience, plus ou moins bien, plus ou moins tout ce que vous voulez, mais quand même, on sait à peu près ce que c'est. Et je crois qu'il y a dans l'émerveillement à l'égard du monde quelque chose qui a vraiment à voir avec la relation amoureuse et avec ce que nous éprouvons dans la relation amoureuse. Et cette idée de autre, mais pas étranger, ça me paraît une distinction, disons, capitale pour comprendre et l'amour et l'émerveillement. Vous voulez encore un petit peu de lecture sur l'amour? Je voulais vous lire un petit passage. J'ai écrit tout un petit essai en aphorisme, en séquence brève, qui s'appelle « Petit éloge du désir », où, pour une fois, au lieu de parler du désir de vivre, j'ai parlé particulièrement du désir charnel, comme expression particulièrement brûlante du désir de vivre. Car vous le savez aussi, dans le sentiment amoureux, dans ce que j'appelle le grand désir, on est dans le désir forcément, et on est dans le désir, dans ce qu'il a de plus ardent, dans ce qu'il a de plus aigu. Et donc c'est un sentiment merveilleux, le sentiment du désir amoureux, c'est vraiment le désir de vivre poussé à son paroxysme, je dirais. Et voilà, donc dans ce livre-ci, j'ai un peu moins parlé de l'émerveillement amoureux, parce que j'avais déjà fait tout un livre là-dessus, mais quand même, évidemment, je l'ai évoqué, parce qu'il est impossible de ne pas parler d'amour et de sentiments amoureux quand on parle d'émerveillement. Alors, un petit passage. J'ai toujours cru que j'écrivais mieux que je ne parlais, c'est comme ça. Amant occupe tout mon esprit à chaque instant. Il parfume le monde et provoque le sourire qui s'impose sur mes lèvres. J'ai beau me livrer à toutes sortes d'activités, La pensée d'amant m'accompagne, m'occupe, m'enchante. Il est homme, comme tant d'autres, sans doute, concession que je fais au bon sens, ni plus ni moins beau que ne l'est Mahé, mais mon regard le distingue, détaillant chaque partie de son corps, chaque mimique, chaque singularité. Sur ses reins, par exemple, sa peau est une soie lustrée. Ses cuisses sont des tours sur lesquelles il prend appui pour s'enfoncer en moi. Et quand je m'y love, le creux de ses bras est d'une douceur terrible. Ses lèvres qui sur les miennes s'amollissent et sa langue qui roule dans ma bouche m'entraînent dans une délicieuse volupté. Parle-t-il ? J'entends l'inflexion particulière de certaines voyelles. Je note un tic de langage. Et quand il tourne la tête, son profil m'étonne et me ravit, qui découvre un aspect inattendu de son visage. Votre amant lui ressemble, peut-être, mais sur le mien s'est concentré mon regard. Pour d'obscurs motifs, intimes et inaccessibles à ma conscience, je l'ai élu et donc je le vois, avec un détail éblouissant. Ou je le vois et donc je l'élis. Et parce qu'il me regarde aussi, dans cette vision mutuelle, dans cette concentration réciproque, se fomente notre connivence et notre acquiescement partagé. L'amour, indulgence, bienveillance, ravissement, qu'est-il si ce n'est l'émerveillement devant un autre en raison de ce qu'il est, exactement perçu ? Le haut désir, qu'est-ce sinon une passion minutieuse quand le corps aimé se métamorphose en un lieu féerique, microcosme soudain devenu vaste territoire dont se réjouissent notre bouche, nos yeux, nos mains. Et le plaisir ne comblant jamais le désir qui persiste après avoir été exaucé, il nous semble qu'on a trop peu caressé, trop peu regardé ce corps qui demeure délectable. L'amour, comme la poésie, est un art du détail. Tout haut désir est concentration. Non pas attente vague, énergie errante ou disponibilité erratique, il est flèche, tension constructive, promesse de réalisation. Eros en majesté provoque une forme d'insularisme. Le monde alentour entre dans une lumière sourde et l'arrière-plan devient flou, tandis que l'acuité se réserve pour amant. Lui et moi vivons sur une île enchantée et plus encore. Nous dénudant, nous caressant, nous pénétrant, nous nous rejoignons dans une proximité inouïe à tous autres que nous deux interdites. Nous partageons l'intime. Franchissant les limites de la distance ordinaire entre les êtres, nous transgressons, c'est-à-dire que nous allons au-delà de l'écart habituel entre les corps. Je suis certaine que, si tous les tabous sociaux affectant l'érotisme disparaissent, demeurera cette expérience que j'ai parfois nommée « nue intérieure » quand, resserrés dans une île pour deux, les amants se dévoilent psychiquement et physiquement, comme jamais il n'est permis d'en prendre le risque, comme jamais ailleurs qu'en haut désir on ne le souhaite. Il n'est d'Eros qu'insulaire. Donc, voilà une expérience d'émerveillement qui est liée à l'altérité, qui est liée à la rencontre avec l'autre, et dans lequel c'est évidemment pas son étrangeté qui prime, mais au contraire l'intimité de la relation que je vais créer avec lui. Combien de temps me reste-t-il ? D'accord. Alors il faut que je choisisse. Je voudrais donc dire trois choses peut-être, trois petites choses, cinq minutes chacune. La première, je voudrais parler du sentiment océanique. Parce que c'est une notion que j'ai à cœur, que je développais déjà souvent et que j'ai à cœur d'explorer. Quand on est dans l'émerveillement, on est devant le monde et on le regarde bien, on le voit. Et puis, il y a un état dans lequel on n'est pas devant le monde, mais on est dans le monde. C'est un état très rare, que peut-être vous n'avez jamais connu, et peut-être que si, mais il est rare. Et moi, je l'ai connu trois fois dans ma vie, et je trouve que c'est une chance, j'ai eu le privilège de connaître cet état. C'est un moment dans lequel on a l'impression, on perd la conscience d'être devant le monde, justement, et on a l'impression de faire partie du tissu du monde. On a l'impression qu'on est dans... on est une, pour ça que je l'appelle, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais sentiment océanique, on a l'impression qu'on est une vague dans, dans l'océan. On n'est pas distinct du reste des vagues et on n'est pas devant l'océan, on est la vague dans l'océan. Moi je l'ai connu trois fois devant des paysages qui n'étaient pas toujours sublimes, souvent la montagne, deux fois devant la montagne, qui est un lieu que j'aime beaucoup. En regardant la montagne, tout à coup, j'ai eu un moment, un temps qui est absolument incalculable. J'ai eu le sentiment de perdre, d'abord j'ai eu le sentiment de perdre la notion du temps, donc je ne sais pas combien de temps ça a duré, et surtout j'ai eu l'impression d'être dans le monde, de faire partie de la patte du monde. Je ne sais pas si ça renvoie à une expérience pour vous, mais c'est un moment capital. Et je pense que selon comment on le vit et à quoi on l'attribue, je pense que c'est ce que vivent les mystiques, par exemple, quand ils ont, comme Saint Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila, quand ils ont le sentiment de Dieu et qu'ils ont l'impression d'être dans le monde, être aspirés dans ce sentiment de Dieu. Moi, je suis athée, donc j'ai pas de croyance dans un monde au-delà ou dans quoi que ce soit qui m'attirerait au-delà de ce monde-ci, j'ai l'impression d'être dans ce monde, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être dans le monde. Mais ça n'empêche qu'il peut y avoir un sentiment de l'identité qui se dilue et qui nous fait participer au monde et non plus le regarder de l'extérieur. Alors ça a été travaillé, si je puis dire, ce sentiment, il y a eu plusieurs livres, un livre qui s'appelle « Mystique sans Dieu », assez récent, Jean-Claude Bologne, un autre qui s'appelle « La mystique sauvage », toujours pareil, pour essayer de le déconnecter du sentiment religieux. Parce que ça n'est pas forcément un sentiment religieux, justement. l'idée de sentiment océanique est une des formules pour décrire ça. C'est Romain Rolland, dans une discussion qu'il avait avec Freud, Sigmund Freud, qui a proposé cette notion, justement pour s'opposer à l'idée du sentiment religieux, pour parler d'une autre façon d'être au monde qui a à voir, qui ressemble au sentiment religieux, mais qui n'est pas cela. Et moi, j'aime beaucoup cette expression. Alors, pourquoi je vous en parle là? Parce que je pense, c'est une hypothèse, je pense que l'émerveillement, je pense qu'il y a des degrés. L'émerveillement, sur cette échelle de notre façon d'être au monde, d'habiter le monde, je pense que l'émerveillement, c'est un degré, et que le sentiment océanique, c'est une sorte d'horizon. C'est-à-dire que si on poussait vraiment l'émerveillement jusqu'au bout, s'il y a un bout, eh bien ce serait le sentiment océanique. C'est-à-dire c'est le moment où on n'est plus devant le monde en train d'admirer sa beauté, mais c'est le moment où on est tombé dans le monde et où on se sent faire partie de ce monde. Le sentiment océanique ou la mystique sans Dieu, c'est justement des moments qui ont pour particularité, entre autres, la joie. C'est-à-dire que ça donne une espèce de joie que les gens n'oublient plus après. Tous ceux qui racontent ces expériences de mystiques sans Dieu, etc., parlent de la joie et du désir, du coup, de retrouver, mais malheureusement, ça ne vient pas sur commande, de retrouver cela. Donc voilà, le sentiment océanique, c'est une expérience vraiment intéressante que je pense être un horizon de l'émerveillement, une pointe avancée de l'émerveillement. La deuxième chose dont je voulais vous parler dans les cinq autres minutes, sur mon quart d'heure, c'est le faire part. Je crois que je vous mets au défi de vous être jamais trouvé devant un paysage émerveillant avec quelqu'un et d'avoir résisté à lui dire « regarde ». Il y a une donnée humaine fondamentale qui est que quand on regarde, quand on voit quelque chose d'émerveillant, on a immédiatement envie, on dit à l'autre « regarde », presque qui que soit l'autre. Et si on y réfléchit bien, c'est vraiment curieux. Pourquoi, après tout, on ne garde pas pour soi son émerveillement? Pourquoi il est irrésistible de dire à l'autre « regarde ». Je n'ai pas la réponse. C'est un fait anthropologique. Les humains interpellent leurs voisins pour leur dire « regarde ». Et évidemment, ça fait partie de la définition d'émerveillement que de vouloir absolument être. Alors, je ne sais pas si c'est partagé, mais en tout cas, le sujet émerveillé veut faire part de son émerveillement, toujours. Et là aussi, peut-être qu'on peut dire que les créateurs, les artistes en tout cas, passent leur temps à faire part. Et entre autres, parfois de la violence du monde, mais aussi de l'émerveillement d'être au monde. Et ça fait vraiment partie de la définition, enfin de la, des données profondes du sentiment d'émerveillement que d'appeler toujours au faire part. La dernière chose que je voudrais vous dire, je me demande si ce ne serait pas plus simple du coup de lire un petit peu. C'est que je pense, dans ma problématique, vous l'avez compris, contre la violence du monde, dans ma façon de me débattre contre la violence du monde, je crois que l'émerveillement et la joie, puisque je ne l'ai peut-être pas, enfin je ne sais plus si j'ai assez insisté ou pas, mais je crois que l'émerveillement, c'est évidemment une des manières d'aller vers la joie. Je crois que aussi l'émerveillement, c'est une valeur, c'est-à-dire que c'est une manière pour nous de lutter contre l'enténèbrement du monde. Et ce n'est pas pour rien, je pense, que j'ai écrit d'ailleurs ce livre en 2015. Il venait d'avoir les attentats de janvier, vous vous souvenez, et on a vraiment senti comme c'était inquiétant, comme notre monde devenait inquiétant, comme on était menacé. Et aujourd'hui, bon, à la veille de la grande grève du 5 décembre, on est dans un moment historique qui est quand même extrêmement inquiétant et où on a l'impression que les choses nous filent entre les doigts, qu'on ne comprend pas très bien le monde tel qu'il est fait, et comment il fonctionne et où on va. Et dans ce monde un peu crépusculaire qui est le nôtre aujourd'hui, je pense que valoriser l'émerveillement, c'est une manière de lutter contre cet enténèbrement. Et c'est une manière aussi de mettre en avant des valeurs positives. Parce que depuis tout à l'heure, je vous ai parlé de la joie, je vous ai parlé de l'altérité, je vous ai parlé d'une façon d'habiter le présent, etc. Tout ça sont des valeurs, et ce sont sur ces valeurs-là que nous construisons une société. Et je pense que l'émerveillement fait partie de ce monde que nous aimerions voir persister ou créer. Voilà, je vous remercie de votre écoute.